1995, depuis l'horreur des camps nazis, on n'avait jamais vu cela sur la terre de la vieille Europe. Un véritable génocide. Ainsi s'exprime le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, en évoquant le massacre de Srebrenica où 7500 Bosniaques ont trouvé la mort, ceux dont les corps ont été découverts, tandis que des milliers d'autres ont disparu pour toujours. La force internationale onusienne, chargée de protéger ces Bosniaques, était alors commandée par un général français, ce qui pose forcément la question de la responsabilité de la France dans ce terrible drame. Difficile aussi d'oublier cette image spectaculaire, celle d'un autre général français, Philippe Morillon, monté sur un blindé et promettant solennellement à la population de Srebrenica assiégée par les troupes bosno-serbes qu'elle ne serait jamais abandonnée. 2 ans plus tard, c'était le massacre et la mise en œuvre à grande échelle de la sinistre purification ethnique. Monsieur X revient sur cette tragédie qui comporte encore de nombreuses zones d'ombre et qui figurait au centre de l'acte d'accusation de l'ex-président Slobodan Milosevic devant le TPI, le Tribunal pénal international de La Haye. Alors que les exécuteurs et certains des commanditaires courent toujours. Mais qui sont les vrais responsables des massacres de Srebrenica et pourquoi a-t-on laissé faire ? Ce sont quelques-unes des questions que j'ai posées à Monsieur X.
Il est impossible de comprendre ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie sans faire un retour en arrière. Bon, d'abord faisons justice d'une idée fausse. Vous savez qu'on a parlé de guerre ethnique.
Même de purification ethnique.
Ouais, bien, ça n'a aucun sens. Car si l'on met à part le Kosovo qui est peuplé en majorité d'Albanais, toutes les autres républiques yougoslaves étaient habitées par des Slaves qui parlaient une seule et même langue, le serbo-croate, à quelques variations près. Croates, bosniaques, serbes ou slovènes appartiennent donc à la même ethnie.
Alors, d'où vient qu'on a parlé de guerre ethnique ?
Bah, c'est que ça en a rangé certains. Enfin, surtout les nationalistes serbes qui ont toujours affiché un sentiment de supériorité. Non, les vraies différences tenaient à l'histoire et à la religion. Les Serbes, par exemple, sont généralement orthodoxes et les Croates catholiques et les Bosniaques musulmans.
Oui, ça c'est pour ces derniers, là, c'est un héritage de l'occupation turque.
Oui, et c'est l'une des explications de la haine que leur vouent les nationalistes serbes qui les accusent d'avoir trahi en épousant la religion de l'envahisseur. Enfin, il faut ajouter que ces rivalités ont été exacerbées par la Seconde Guerre mondiale. Les uns ayant plutôt choisi le camp hitlérien et les autres celui des alliés.
Les Serbes.
Effectivement. Bah, encore une fois, il ne faut pas généraliser. Car si les Oustachis croates alliés d'Hitler ont fait preuve d'une épouvantable sauvagerie, c'est aussi un croate, Tito, qui travaillera à l'unification des mouvements de résistance. Et c'est sous son autorité que se constituera la Yougoslavie moderne, une fédération de républiques qui vivra en paix pendant près d'un demi-siècle.
Une fédération socialiste.
Oui, c'est l'idéologie qui est facteur d'unité. Et Tito lui-même, bien sûr. Ce n'est pas allé sans difficulté, mais enfin, grosso modo, le régime yougoslave a respecté les aspirations nationales de chacune des républiques et accordé une large autonomie au Kosovo. Toutefois, il existait de fortes disparités économiques, le nord de la fédération étant plus riche et plus développé que le sud. J'ajoute, et c'est très important, que la répartition nationale méconnaissait bien souvent les frontières des républiques.
Mmh. Que voulez-vous dire là ?
Eh bien, prenons le cas de la Bosnie-Herzégovine, puisque nous allons en parler longuement. Si une grande partie de la population était considérée comme musulmane, même si beaucoup de citoyens ne pratiquaient plus leur religion, il existait aussi une forte minorité serbe. Et on y trouvait aussi des Croates en plus petit nombre. Il en allait de même entre les autres républiques de la fédération. Il faut souligner que ça se passait plutôt bien. À Sarajevo, par exemple, avant la guerre, tous ces gens vivaient en bonne intelligence.
Mmh, ouais. Mais la mort de Tito va tout remettre en cause.
Oui, c'est exact. Et au début des années 80, la Yougoslavie traverse alors une grave crise économique. D'autre part, ça bouge au Kosovo.
C'est-à-dire ?
Les Kosovars, qui sont, je le rappelle, en majorité d'origine albanaise, réclament pour leur territoire le statut de république.
Mais à l'intérieur de la fédération yougoslave.
Oui, ouais. Oui, parce que jusqu'alors, le Kosovo n'est qu'une région autonome adossée à la Serbie. Cette revendication, c'est l'allumette qui va mettre le feu aux poules.
Pourquoi alors ?
Parce qu'elle va permettre à Slobodan Milosevic, l'homme fort de Belgrade, président de la Ligue des communistes...
C'est le parti au pouvoir, là.
Oui, le parti créé par le maréchal Tito. Donc ça va permettre à Milosevic de réveiller le nationalisme serbe et d'en jouer pour masquer ses propres difficultés et asseoir son pouvoir.
Alors, quoi, c'est une récupération cynique, c'est ça?
Certainement.
Mais attendez, là, vous parlez de réveil du nationalisme serbe, c'est donc qu'il n'avait jamais vraiment disparu.
Je le pense. Il existait dans certains milieux ce sentiment de supériorité dont je vous ai déjà parlé. Pour ces gens-là, les musulmans bosniaques n'étaient que des Turcs.
Des Turcs?
Oui. Et je vous laisse deviner le mépris qui se cachait sous cette appellation. Quant aux Croates, ils portaient toujours la tache infamante des sanguinaires Oustachis. En fait, ces nationalistes étaient des nostalgiques de la Grande Serbie. Ils étaient persuadés que la division de la Yougoslavie en plusieurs républiques s'était faite au détriment des Serbes. Et ce qui était particulièrement grave, c'est que cette revendication nationaliste était soutenue par nombre d'intellectuels.
Alors, bon, le Kosovo.
Sous prétexte que les Serbes du Kosovo seraient opprimés par les Kosovars d'origine albanaise, Milosevic vient à leur secours. Il supprime l'autonomie de la région et réprime brutalement les manifestations des Kosovars. Enfin bref, il est dès lors très clair que Milosevic veut renforcer la centralisation dans toute la fédération.
Au profit des Serbes.
Naturellement. Le résultat, c'est que cette politique crée de nombreuses oppositions dans les républiques où l'on s'interroge sur l'avenir du système fédéral. Et bientôt, ça va craquer de partout. La Slovénie et la Croatie vont être les deux premières républiques à rompre avec la fédération yougoslave.
Oui, c'est la guerre qui commence.
Oui, je résume, parce que c'est très compliqué. L'armée fédérale, qui est essentiellement devenue une armée serbe, intervient d'abord en Slovénie, mais elle est défaite. Ensuite, elle attaque la Croatie, participe au combat des milices serbes, les fameux Tchetniks. On retrouvera un peu partout dans les opérations armées qui feront généralement preuve d'une grande férocité.
Attendez, est-ce que la férocité ne sera pas partagée, si je puis dire?
Oui, vous avez raison. Les exactions répondront aux exactions, c'est sûr. Et les Croates en particulier se rendront coupables de nombreux crimes de guerre. Mais il ne faut quand même pas oublier que ce sont d'abord les Serbes qui sont les agresseurs. En Slovénie, brièvement, puis en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.
Alors, pour vous, le coupable, c'est Milosevic, hein?
Sans aucun doute. En Croatie, vous vous en souvenez sans doute, les combats sont d'une extrême violence.
Oui, le siège de Vukovar. Hein.
La ville tombe après 3 mois de siège. Il faudra aussi parler des dommages considérables commis à Dubrovnik, l'ancienne Raguse. Ces combats font des centaines et des centaines de morts. La communauté européenne essaie d'intervenir et l'ONU finira par envoyer au début de 1992 une force d'interposition, la Fort Prenu.
De casque bleu.
Oui, au nombre de 14 000. Et parmi eux, un grand nombre de Français.
Alors, en Bosnie, qu'est-ce qui se passe?
Dans un premier temps, le gouvernement bosniaque n'entendait pas rompre avec la fédération yougoslave. Mais la montée en puissance des nationalismes ne pouvait qu'aboutir à l'éclatement. Et fin 1991, la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance. Une indépendance confirmée par un référendum auquel les Serbes bosniaques refusent de participer. Un référendum qui a été organisé à la demande des Européens, qui d'ailleurs ne tarderont pas à reconnaître l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine.
Oui, mais l'opposition de, comment on les appelle, les bosno-serbes, c'est ça, hein? Parce que ceux-là sont minoritaires.
Et qu'ils entendent créer une république serbe de Bosnie.
Ouais, la guerre est donc inévitable. Hein.
Oui, parce que pour les Serbes de Bosnie, ce référendum, c'est un casus belli. Milosevic et les dirigeants nationalistes serbes considèrent en effet que partout où il y a un cimetière serbe, la terre est serbe. Et dès le début du mois d'avril 1992, le siège de Sarajevo commence.
Ouais, un siège qui durera plus de 3 ans, je crois.
Oui, en même temps, l'armée et les milices serbes attaquent un peu partout. À tel point que 3 mois après les débuts des hostilités, ils contrôleront près des 2/3 de la Bosnie.
Comment expliquer là, ces rapides succès?
Les Serbes ont hérité du formidable arsenal de l'armée fédérale.
Vous voulez dire que les forces sont disproportionnées?
Dans une large mesure, oui. Et l'embargo sur les armes n'arrangera rien. Car si les Serbes disposent d'un matériel pratiquement inépuisable, les Bosniaques, eux, auront beaucoup de mal à se ravitailler, malgré l'appui discret des États-Unis.
Mais attends, quand vous parlez des Serbes, de quels Serbes s'agit-il? Des Serbes de Bosnie ou des Serbes de Serbie, enfin des Serbes de Belgrade?
Écoutez, j'avoue que j'ai du mal à faire la différence. Quoi qu'il en ait dit, il est évident que c'est Slobodan Milosevic qui tire les ficelles. Et Karadzic, le président de la République serbe de Bosnie, et le général Miladic, opèrent de conserve avec le maître de Belgrade. C'est par exemple l'armée fédérale serbe qui approvisionnera en matériel les bosno-serbes. Et puis, il y a ces milices qui sont directement inspirées par Belgrade au nom du nationalisme grand serbe.
Ouais. La frontière entre la Serbie et la République serbe de Bosnie est donc très poreuse.
Incontestablement.
Mais est-ce qu'à terme, cette frontière ne devait pas être supprimée?
Pour unifier la République serbe de Bosnie et ce qui restait de la Yougoslavie, vous voulez dire?
Oui.
Bien oui, je le crois, oui. Au fond, cette entité serbe-bosniaque était une sorte de fiction. J'ajoute que dans ce jeu très compliqué et féroce, un troisième larron va jouer sa propre partition.
Qui?
Le président croate Tudjman. Après avoir guerroyé contre les Serbes, il se retourne contre les Bosniaques. Et en fait, je suis sûr qu'il existait un accord secret entre Tudjman et Milosevic.
Un accord, quoi, pour attaquer ensemble la Bosnie ?
Oui, surtout pour s'approprier l'un et l'autre tout ou partie de cette république.
Il semble bien que la sécession serbe en Bosnie et la campagne militaire qui a suivi a été longuement préméditée, si j'en crois un témoignage d'un spécialiste des Balkans, James Gao, devant le tribunal pénal international. Je le cite. De concert avec les dirigeants politiques serbes et les unités régulières, l'armée régulière serbe a conçu, planifié, préparé et exécuté une campagne armée en Bosnie comportant l'utilisation systématique de la terreur pour établir les frontières d'une nouvelle Yougoslavie. Autre témoignage, celui de la journaliste du Monde, Florence Hartmann. Elle écrit ceci en novembre 1995. La politique de terreur qui fut menée en Bosnie dès les premiers jours d'avril 1992 n'a rien de spontané. Les informations recueillies depuis par les observateurs internationaux démontrent que le dispositif militaire d'encerclement était déjà en place, que les listes de non-serbes dans les territoires convoités avaient été dressées depuis plusieurs mois avant les hostilités. Le nettoyage ethnique s'effectuait selon une méthode planifiée qui se répétait de ville en village. L'armée fédérale de Belgrade bombardait la région ou la ville convoitée, laissait entrer les milices pour semer la terreur, puis prenait le contrôle des lieux avant d'achever le tri ethnique. La majorité des femmes, enfants et vieillards étaient déportés jusqu'à la ligne du front. Les élites intellectuelles et les leaders politiques étaient immédiatement liquidés ou incarcérés. Nombre d'entre eux seront exécutés lors de leur détention.
On a une première idée réelle des intentions des Serbes au mois d'avril 1992. Et déjà, dans la région de Srebrenica, là, les miliciens commencent à procéder à ce qu'on appellera plus tard la purification ethnique.
C'est-à-dire, avant d'aller plus loin, là, où se trouve Srebrenica ?
Srebrenica, qui est une petite ville de 8000 habitants, est située en Bosnie orientale, près de la rivière Drina, qui est la frontière naturelle entre la Bosnie et la Serbie. Étant à Pale, la capitale de la République serbe de Bosnie, qu'à Belgrade, on considère que la ville et sa région appartiennent de facto à l'entité serbe.
C'est donc une sorte d'enclave, en territoire bosno-serbe.
C'est ça, oui. Une enclave, on le sait, c'est toujours difficile à défendre.
Alors, cette purification ethnique qui porte mal son nom, si je vous ai bien écouté.
Bon, c'est très simple, si j'ose m'exprimer ainsi. Les miliciens chassent sans ménagement les habitants qui ne sont pas serbes. Et quand je dis sans ménagement, vous voyez ce que je veux dire. Des bosniaques musulmans sont tués et leurs maisons sont incendiées ou dynamitées. Je vous donnerai un seul chiffre, mais il est suffisamment éloquent. Il ne restera sur place qu'un peu plus de 350 habitants.
Sur 8000 ?
Oui, mais un mois plus tard, les bosniaques prennent leur revanche et chassent les serbes. La conséquence, c'est que les habitants musulmans de la région, terrorisés, viennent trouver refuge dans la ville reconquise. Et Srebrenica va bientôt compter 40 000 habitants.
Et les Serbes, là, comment réagissent-ils ?
Ils assiègent la ville et ses environs immédiats. Et assez vite, la situation des habitants deviendra intenable, car les convois humanitaires ne pourront franchir les lignes serbes que 8 mois après le début du siège. Il faut aussi dire que des combats se poursuivent un peu partout sur le territoire de la République et que la purification ethnique, continuons de l'appeler ainsi, se traduit par la création de camps d'internement où les détenus sont affamés et maltraités.
Moi, j'ai pas oublié les photographies de ces hommes squelettiques, des images, au fond, qu'on n'avait pas revues depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais je vous trouve quand même un peu partial, là. Vous mettez tout sur le dos des Serbes.
Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Bosniaques, quand ils pourront se venger, se conduiront eux aussi avec sauvagerie. Mais cela n'exonère en rien la responsabilité première qui est celle des Serbes, et donc de Slobodan Milosevic lui-même.
Ouais. Les casques sont d'abord intervenus, si je vous ai bien entendu, pour s'interposer entre Croates et Serbes, alors en Bosnie.
La communauté internationale ne peut pas ignorer ce qui se passe là-bas. Et la FORPRONU va être amenée à réagir. Mais auparavant, le Conseil de sécurité de l'ONU, sans doute troublé par les photos de ses prisonniers des camps d'internement, a décidé la création d'un tribunal pénal international pour les exactions commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.
Et c'est une première depuis Nuremberg, et les procès des dirigeants nazis.
Oui, et en même temps, un plan de paix est proposé. prévoyant la démilitarisation de Sarajevo et le découpage de la Bosnie en 10 provinces. Il est repoussé à la fois par les Bosniaques, musulmans et serbes, et pendant ce temps-là, la guerre continue, toujours aussi atroce. Après avoir subi quelques revers au début 93, les Serbes du général Mladic accentuent leur pression sur Srebrenica, où se trouvent maintenant près de 60 000 réfugiés.
Ah oui, c'est là que va intervenir le général Morillon.
Exactement. Mmh. Philippe Morillon est alors le commandant de la forte ponue en Bosnie-Herzégovine. Devant le danger qui menace l'enclave de Srebrenica, il se rend dans la ville. Les habitants qui s'attendent au pire le prennent d'abord en otage, lui et ses casques bleus.
Ouais. Des boucliers humains.
En quelque sorte, oui, mais le général français parvient à retourner la population et c'est cette fameuse scène...
Oui, son discours à la foule alors qu'il est juché sur un blindé.
Oui, oui, personne n'a oublié. Morillon déchaîne l'enthousiasme de ces bosniaques musulmans quand il leur promet qu'il ne les abandonnera jamais et qu'ils se trouvent désormais sous la protection de l'ONU. Mais en même temps, il déclare que Srebrenica sera une zone démilitarisée et il demande aux combattants de rendre leurs armes.
Mmh. Est-ce que les Bosniaques acceptent?
Ils ont confiance, sont persuadés que l'ONU saura les protéger.
Mais ça veut dire que le général Morillon s'engage personnellement.
Effectivement, oui.
Mais connaît-il vraiment les dangers que courent tous ces gens?
Absolument. Il y a déjà eu le précédent de la première prise de Srebrenica en 1992.
Oui, la purification
ethnique. Oui, oui, en outre, Morillon sait parfaitement où Mladic veut en venir. Enfin, je n'invente rien. Le général français a lui-même déclaré devant le tribunal pénal international de La Haye qu'il avait personnellement prévenu le président Milosevic que des massacres se produiraient à Srebrenica si les troupes de Mladic s'emparaient de la ville.
Alors, dans ce cas, on peut s'interroger sur le bien fondé de sa décision de désarmer les musulmans.
Je suis d'accord. Mmh. Et d'autre part, en promettant la sécurité à tous ces réfugiés, Morillon était-il assuré que l'ONU serait capable de les protéger?
Pensez qu'il a péché par imprudence, quoi.
Non, c'est pas à moi de juger Morillon. Enfin, vous avez raison, on peut s'interroger. Mais si vous voulez bien, voyons la suite.
Ouais, ouais.
Bon, un mois après le spectaculaire discours de Morillon, l'ONU conforte sa position en décrétant que Srebrenica est désormais une zone de sécurité.
Qu'est-ce que ça signifie, ça, une zone de sécurité?
Srebrenica et ses environs sont considérés comme une zone démilitarisée et un cessez-le-feu est signé. Les Bosniaques musulmans, comme ils s'y sont engagés, désarment et un contingent de casques bleus canadiens entre dans la ville. Mais il faut bien insister sur ce point, la résolution de l'ONU ne prévoit aucun moyen de coercition contre les troupes de Mladic au cas où celui-ci ne respecterait pas la zone de sécurité de Srebrenica. Or, Mladic n'a aucune intention de desserrer la pression qu'il exerce sur la ville.
Alors, c'est une sorte de marché de dupes.
Assurément, on demande simplement aux musulmans d'avoir une confiance aveugle dans l'ONU.
Mais sans garantie.
D'autant qu'ils ont accepté d'être désarmés. À l'instar de Srebrenica, l'ONU crée plusieurs autres zones de sécurité. Et la plupart du temps, à l'exception de Sarajevo, ce sont des enclaves où vont être envoyés des casques bleus. À Srebrenica, après les Canadiens, ce sont les Hollandais qui assureront le respect du cessez-le-feu.
Mmh. Combien?
350 hommes, je crois.
C'est pas beaucoup, non?
Bien sûr. Ce contingent sera incapable de protéger la ville si Mladic décide de passer à l'action. Pourtant, dans deux autres zones de sécurité, Gradze et Bihać, qui subissent l'assaut des troupes serbes, l'ONU fait la preuve que ces enclaves peuvent être efficacement défendues.
Comment?
Grâce à des bombardements aériens sur les troupes serbes, des bombardements effectués par l'aviation de l'OTAN. Cela suffit à stopper l'avancée des Serbes. Mais naturellement, ces zones de sécurité continuent à être assiégées.
Oui, c'est-à-dire que Mladic ne renonce pas.
Non, il ne s'en cache pas. Il l'a même dit au général britannique qui a succédé à Philippe Morillon. Son intention est de s'emparer de toutes ces zones de sécurité qui sont autant d'enclaves musulmanes en territoire serbe. Et tout au long de l'année 94, on assistera à de nombreuses tentatives d'intrusion. À Srebrenica et aussi dans les autres zones de sécurité.
Il veut donc défier l'ONU.
Parfaitement. Mmh. Et souvenez-vous de ce qui se passe à Sarajevo. Les Serbes continuent à bombarder la ville et ne manquent jamais une occasion d'humilier les casques bleus, en contrôlant les routes, en bloquant le passage de leurs convois, par exemple. Dès lors, on peut s'attendre à ce que l'année 1995 soit particulièrement sanglante.
Revenons un tout petit peu en arrière. En 1993, un Français, le général Cotte, est nommé à la tête de la forte ponue. C'est un homme impoigne qui entend que l'ONU soit enfin respectée dans l'ex-Yougoslavie. Voici ce que je lis dans l'ouvrage d'Hubert Coudurier, « Le monde selon Chirac », paru en 1998 chez Calman Levy. Pour la première fois, un militaire issu d'un des pays membres du Conseil de sécurité prend les choses en main. Son objectif? Bousculer l'ONU qui maintient les soldats de la paix dans la position de spectateurs impuissants tandis que les Serbes multiplient les provocations. Il fallait arrêter d'être dans cette inhibition onusienne du maintien de la paix qui, de surcroît, n'avait jamais été établie, explique Cotte, qui se souvient avoir vu un général étranger éclater en larmes devant lui parce que son gouvernement lui interdisait d'obéir aux ordres du français. Faisant fi de l'attitude habituelle des Nations Unies, neutralité, consensus et pas de recours à la force, le général français, au langage cru et aux méthodes directes, indispose rapidement le secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali, déjà agacé par les foucades du général Morillon, dont la presse bosniaque a fait un héros. L'écho médiatique a reçu l'intervention de ce dernier dans la poche de Srebrenica a également déplu à ses supérieurs hiérarchiques, en particulier François Léotard, qui le juge incontrôlable. Philippe Morillon, jugé pro-bosniaque, sera remplacé par le général belge Bricmont. Mais ce premier sursaut fait honneur à l'armée française, dont la serbophilie est pourtant avérée. Pour sa part, Cotte ne cesse d'envoyer des rapports à l'ONU qui dénoncent l'incompétence et la vénalité des bataillons mis à sa disposition. Il conclura même que la mission de la Forprenu est un véritable bordel. Ajoutons que dès le mois de février 1994, le remuant général Cotte sera rappelé en France.
En 1995, la situation devient en effet de plus en plus menaçante en Bosnie-Herzégovine, et particulièrement dans ces enclaves rebaptisées « zones de sécurité ».
D'autant m'avez-vous dit que le général Mladic est décidé à les prendre.
Oui, le climat est donc très tendu, et le commandant du contingent hollandais de Srebrenica, le colonel Karemans, envoie à plusieurs reprises des rapports très alarmistes au commandement en chef de la Forprenu. Mais, et c'est très étrange, ces rapports ne seraient jamais parvenus à l'état-major des casques bleus.
C'est vraisemblable, ça?
Franchement, non.
Alors, qu'est-ce que ça signifie?
Bon, je crois que dès cette époque, c'est-à-dire dans les premiers mois de 1995, on a déjà décidé de changer de politique vis-à-vis des zones de sécurité. Enfin, n'allons pas trop vite.
Oui, d'accord, je suis habitué, mais soyons quand même plus précis, là. Ce « on », c'est qui?
Bah, je vous répondrai, je vous promets, mais je vous propose d'abord d'examiner ce qui se passe sur le terrain. Et après, nous essaierons d'établir les responsabilités des uns et des autres. Un détail important d'abord. À partir du mois de mars, c'est un général français, le général Janvier, qui va commander la Forprenu, avec des pouvoirs renforcés d'ailleurs.
Et pourquoi insister là sur ce point?
Parce qu'on a souvent accusé les militaires français d'être plutôt favorables aux Serbes.
C'est vrai?
Bon, il est certain qu'à plusieurs reprises, les Serbes ont été nos alliés, lors des deux derniers conflits mondiaux, par exemple. Et ça laisse des traces.
Vous insinuez donc que la Forprenu, enfin, sous commandement français, aurait pu manifester de la sympathie pour les Serbes?
Non, je n'ai pas dit ça, mais ça alimentera de nombreux soupçons. D'autant que l'attitude de nos différents ministres de la Défense ne fera rien pour faire justice de ces soupçons.
Expliquez là, c'est-à-dire.
Et ils interdiront par exemple au général Janvier d'aller témoigner devant le tribunal pénal international.
Alors, comme si la France avait quelque chose à cacher.
Exactement. De la même façon, Janvier lui-même refusera d'être interrogé par une commission d'historiens hollandais.
Je comprends mieux là. Alors bon, les faits, si vous le voulez bien.
Volontiers. Commençons donc par une rencontre secrète qui se déroule à l'ONU au mois de mai, en marge de la réunion du Conseil de sécurité. Le général Janvier a fait le déplacement. Il est très inquiet.
Pourquoi? Parce qu'il s'attend à une offensive serbe?
Évidemment. Et ce qui le préoccupe en particulier, c'est la sécurité des casques bleus présents en Bosnie-Herzégovine. Il affirme, non sans raison d'ailleurs, que la mission de paix qu'il commande ne peut réussir que si les belligérants y consentent. Dans le cas contraire, eh bien, il faut les laisser se débrouiller ensemble.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Enfin, si la Forprenu est présente dans l'ex-Yougoslavie, c'est quand même bien pour s'interposer entre les belligérants, y compris par la force, non?
Eh non. Le mandat de l'ONU n'a pas prévu explicitement l'emploi de la force. Sauf, bien sûr, si les casques bleus sont directement attaqués par l'une ou l'autre des parties. En outre, les casques bleus n'ont certainement pas les moyens de s'opposer à une attaque d'envergure des Serbes contre les musulmans bosniaques. Sauf à demander l'intervention de l'aviation. Mais nous reviendrons sur ce point, car il est essentiel.
Et vous m'avez vous-même dit qu'à deux reprises, cette intervention aérienne avait été couronnée de succès.
C'est exact. Mais la situation va d'un seul coup se compliquer. J'ajoute, pour la défense du général Janvier, que le commandant en chef de la Forprenu a très peur que ses casques bleus deviennent des boucs émissaires. Et les faits vont lui donner très vite raison.
D'accord, on va y venir. Mais pour résumer au fond, ce que voudrait Janvier, c'est que les casques bleus se retirent purement et simplement.
Ou abandonnent les secteurs les plus dangereux.
Et donc les zones de sécurité.
En effet. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU en décide autrement. Les contingents de l'ONU doivent demeurer sur place. Mais décision regrettable, on n'envisage pas de renforcer les moyens dont les casques bleus disposent.
Ouais, une décision mi-chèvre, mi-chou.
Oui, voilà. Pourtant au même moment, il s'est passé des faits très graves en Bosnie. Les hommes de Mladic récupèrent leurs armes lourdes qui étaient placées sous le contrôle des casques bleus.
Une sorte de hold-up.
C'est ça. Et si le général bosno-serbe a récupéré ses armes confisquées, c'est qu'il a manifestement l'intention de s'en servir. C'est pourquoi je pense que l'ONU aurait dû réagir avec plus de fermeté. Toutefois, il faut tout de même dire que l'OTAN ripostera en bombardant un dépôt de munitions des bosno-serbes près de leur capitale, Pale. Ça nourrira d'ailleurs une grave controverse.
Pourquoi ?
Parce que les Français prétendront ne pas avoir été informés de ce raid aérien. Or, non seulement les hommes de Mladic se vengent en bombardant à leur tour les zones de sécurité et en faisant des dizaines de morts, mais ils vont aussi s'emparer de près de plusieurs centaines de casques bleus. Et parmi eux, il y a beaucoup de Français.
Ah oui, alors à Paris, on pense que si on avait été averti avant, on aurait pris des précautions.
Oui, je le pense. Des casques bleus otages, ce n'est pas rien. Et les images de ces militaires prisonniers attachés à des poteaux, brandissant des drapeaux blancs fixés sur les manches à balai, sans même se défendre, images complaisamment diffusées par la télévision serbe, sont une véritable humiliation pour la fort-prévenue et surtout pour la France.
Oui, ça se comprend. Hein.
Et à Paris, où Chirac va succéder à Mitterrand, on est vert de rage. Il paraît même qu'à l'occasion, Chirac a piqué une véritable colère contre les principaux chefs militaires. Et il ordonne aux soldats français, ONU ou pas ONU, de riposter par la force à toute provocation des Serbes. Ça se traduira assez vite sur le terrain. Et les militaires français reprendront, en faisant usage de leurs armes, un pont de Sarajevo où les Serbes avaient chassé les soldats de l'ONU.
Mais la capture des casques bleus là, justifie bien ce que vous avez dit quand vous avez affirmé que les faits allaient donner raison au général Janvier.
Bien entendu. Et c'est capital. Parce que le commandement français de la fort-prévenue pense que si les avions de l'OTAN n'avaient pas attaqué, il n'y aurait pas eu de prise d'otages. Ça aura bientôt de terribles conséquences pour la population de Srebrenica. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite.
Hein. Oui, bon. Qu'entendent faire les Serbes là, de ces casques bleus otages?
Ils veulent s'en servir comme bouclier humain.
Pour éviter d'autres attaques aériennes?
C'est évident. À Paris, vous pensez bien qu'on s'agite. Et c'est à l'initiative de la France que les pays membres de l'OTAN décident la création d'une force de réaction rapide.
Avec quel objectif, là, rappelez-moi?
Ça, c'est pas très clair. Hein. Même si plus tard, cette force jouera un rôle décisif. Mais en juin 1995, n'en sommes qu'à la décision de la créer. Et il semble bien qu'elle soit d'abord destinée à permettre aux casques bleus d'assurer l'exécution de leur mission de paix.
En fait, on veut protéger les protecteurs, hein, c'est bien ça?
Oui, à peu près. On veut surtout éviter de nouvelles prises d'otages de casques bleus. Et la priorité pour le commandant de la fort-prévenue, c'est d'abord de récupérer ces hommes qui sont aux mains des Serbes.
Ça me paraît normal, non?
Bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. Et on est là devant un des aspects les plus mystérieux et les plus secrets de toute cette dramatique affaire. Le général Janvier a-t-il, oui ou non, négocié avec Mladic pour obtenir la libération des otages? Et si oui, qu'a-t-il offert en échange au général serbe? Autre question, s'il a vraiment négocié, l'a-t-il fait avec l'accord de Paris? C'est-à-dire sans en informer l'ONU qui lui avait pourtant confié son mandat de commandant de la fort-prévenue.
J'attends votre réponse.
Une seule chose est certaine, le général Janvier a bien rencontré Mladic et un autre général serbe, Perisic, qui représente Slobodan Milosevic. On sait même que la rencontre a eu lieu début juin dans un hôtel situé à la frontière serbe.
Oui, mais d'accord, mais que s'est-il dit alors?
Mladic a fait trois propositions. Premièrement, il s'est engagé à ne plus menacer les casques bleus. Deuxièmement, il a exigé que la fort-prévenue renonce aux frappes aériennes sur le territoire de la République serbe de Serbie. Et troisièmement, il a annoncé en contrepartie son intention de libérer les casques bleus prisonniers.
Les réactions de Janvier autant que...
Il affirme qu'il a pris note de ses propositions, mais qu'il n'a rien signé. Toutefois, on ne peut s'empêcher d'observer que les casques bleus vont être libérés dans la quinzaine qui suivra cette entrevue. D'autre part, le commandant de la fort-prévenue met plus de 10 jours avant d'envoyer un télégramme codé à l'ONU, télégramme qui rapporte les propositions de Mladic.
Alors même que le général serbe aurait commencé à appliquer le plan qu'il avait proposé.
Oui, c'est sans doute le plus grave. Quand les soldats de Mladic attaqueront Srebrenica, un mois plus tard, le général Janvier refusera toute attaque aérienne sur les troupes serbes. Or, seule une intervention de ce type aurait pu sauver les réfugiés de Srebrenica du massacre.
Alors, il aurait donc agi, lui aussi, comme s'il respectait les termes de l'accord proposé par Mladic.
Avouez que c'est bien troublant, non? Je vous rappelle simplement qu'on n'avait pas vu un massacre d'une telle ampleur en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.
qui est responsable? Qui a laissé faire? Qui a permis que soit perpétré le massacre de Srebrenica, ville martyre de l'ex-Yougoslavie, où des milliers de Bosniaques musulmans ont été exterminés par les hordes serbes du général Mladic? Nous sommes en 1995. La Bosnie-Herzégovine est alors déchirée par une guerre cruelle qui oppose les différents groupes nationaux qui peuplent cette petite république fraîchement indépendante. Deux ans plus tôt, l'ONU a envoyé un important contingent de casques bleus et parmi eux beaucoup de Français. La Fort Pronu, ainsi qu'elle s'appelle, peine à contenir les incursions des bosno-serbes qui ont déjà conquis plus de 70% du territoire bosniaque. Et pour protéger les populations musulmanes, l'ONU a décidé la création de zones de sécurité, des enclaves que Mladic et le président de la République serbe autoproclamé de Bosnie, Karadzic, entendent conquérir. En mai, répondant à une attaque aérienne de l'OTAN sur un de leurs sites, les Serbes ripostent en s'en prenant au casque bleu. Plusieurs centaines d'entre eux sont pris en otage et humiliés. Ils doivent servir de bouclier humain en cas de nouvelles attaques aériennes. Le général français Janvier, commandant de la Fort Pronu, légitimement inquiet, prend langue avec la partie serbe. Il rencontre Mladic et un envoyé du président Milosevic. Les Serbes s'engagent à ne plus s'attaquer au casque bleu et à libérer ceux qu'ils détiennent si le général français renonce aux frappes aériennes. Janvier a toujours affirmé qu'il n'avait rien signé. Toutefois, on observe que très rapidement, les casques bleus otages sont libérés. Et le jour où la zone de sécurité de Srebrenica sera submergée par les troupes de Mladic, aucune opération aérienne, seule susceptible de les repousser, n'interviendra. Bref, si rien n'a été signé entre les généraux français et serbes, tout se passe dans les fêtes comme s'il y avait eu réellement un accord, la sinistre conséquence étant le massacre de Srebrenica.
Je crois qu'il faut d'abord rappeler que tous les Bosniaques musulmans réfugiés dans la petite ville de Srebrenica ont de bonnes raisons de croire qu'ils ne risquent rien.
Oui, la promesse que leur a faite le général Morillon en 1993.
Oui, la promesse qu'ils ne seront jamais abandonnés et que l'ONU continuera de les protéger.
Et contre cette promesse, il faut le rappeler, ils ont même accepté de livrer leurs armes.
Oui, absolument, ils sont donc confiants. C'est si vrai que ne cessent d'affluer à Srebrenica les habitants de la région fuyant la guerre et ce qu'on a appelé la purification ethnique. Tous ces gens pensent donc qu'ils sont à l'abri dans cette zone de sécurité décrétée par l'ONU.
Pourtant, le contingent de la Fort Pronu présent à Srebrenica est plutôt maigre.
C'est vrai. 350 castes bleus hollandais sont présents sur place. Il est certain qu'en cas d'attaque massive des combattants serbes, ils seront incapables d'opposer une résistance efficace. D'autant que les objectifs de leur mission sont très flous. Ils sont là pour s'interposer, se défendre à la rigueur, mais c'est tout.
Oui. En cas d'attaque, des gens qu'ils sont censés protéger, ils ne sont donc pas autorisés à ouvrir le feu?
En principe, non. Et disons-le tout net, dans ces conditions, l'existence de ces zones de sécurité est parfaitement hypocrite. Ou on se donne les moyens de les défendre, ou alors on y renonce. Et c'est ce que l'on pense à l'état-major de la Fort Pronu. Mais on y reviendra, ça, c'est un point essentiel. Dès la mi-juin 1995, des avions espions américains repèrent des regroupements de chars et de troupes à proximité de l'enclave de Srebrenica.
L'ONU est mise au courant, là.
Ben forcément. Et les réfugiés continuent à affluer. 3000 de plus en ce mois de juin, ce qui pose beaucoup de problèmes.
Le ravitaillement, j'imagine.
En particulier, oui. Srebrenica, je vous le rappelle, est une petite ville qui n'était nullement préparée à accueillir des milliers et des milliers de réfugiés. Puis il y a aussi des difficultés d'ordre sanitaire. Ici, il faut souligner qu'une ONG française, Médecins sans frontières, se dépensera sans compter et jusqu'au bout pour venir en aide à tous ces malheureux.
En tout cas, d'après les informations recueillies par les avions américains, les avions espions, il semble bien qu'une offensive serbe se prépare.
Incontestablement. Toujours en cette mi-juin, le représentant personnel du secrétaire général de l'ONU, le japonais Yasushi Akashi, se rend à Belgrade et rencontre le numéro 1 serbe, Slobodan Milosevic.
Milosevic qui, vous me l'avez dit, tire les ficelles dans cette histoire.
C'est évident. Les Serbes de Bosnie sont à sa botte. Et c'est normal, puisque c'est lui qui les arme. L'objectif, rappelons-le, c'est la création d'une grande Serbie qui regrouperait tous les territoires où vivent les Serbes.
Oui, en chassant les autres, Croates, Bosniaques musulmans.
Sans oublier Kosovars d'origine albanaise. Ouais. Revenons à cette rencontre entre Akashi et Milosevic. Elle pose une question très troublante. Milosevic aurait dit aux diplomates onusiens qu'aucune attaque aérienne ne serait effectuée sans un accord personnel de Jacques Chirac. Le président français l'en aurait informé.
Aurait informé Milosevic. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Est-ce une conséquence de l'accord qui aurait été passé entre le général Janvier et Mladic?
On peut se le demander. Même si, il faut le rappeler, Janvier a toujours nié l'existence de cet accord. D'autre part, à cette date, les casques bleus français ont déjà été libérés.
Donc ils ne courent plus de risques.
Et Chirac pourrait donc s'estimer libéré d'une éventuelle promesse si les Serbes prenaient l'initiative d'attaquer la zone de sécurité de Srebrenica. Mais si je vous ai dit que cette histoire est troublante, c'est que les Serbes donnent l'impression qu'ils pourront agir en toute impunité.
C'est-à-dire sans craindre de représailles aériennes.
C'est ça. Enfin, poursuivons. On note, dans les derniers jours du mois de juin, des incursions serbes dans la zone de sécurité. Elles sont menées par des miliciens. Ce sont des missions de reconnaissance.
Avant une attaque.
Oui, et les événements vont se précipiter. Le 6 juillet à l'aube, les bombardements commencent sur la zone de Srebrenica. Et puis c'est l'attaque au sol. Le commandant hollandais des casques bleus, le colonel Karemans, demande aussitôt à l'état-major de la Fort-Prenu un appui aérien. Mais il essuie un refus. À ce niveau du récit, il faut mentionner que le numéro 2 du commandement des casques bleus, le général britannique Rupert Smith, est alors absent de Sarajevo.
Pourquoi ce détail hein?
Parce que cet officier a toujours été partisan de riposter par la force aux menées des Serbes.
Et vous pensez que sa présence aurait pu changer les choses?
C'est très possible, mais Rupert Smith est en congé.
Un hasard?
On peut s'interroger. Quoi qu'il en soit, l'offensive serbe se poursuit. Et les troupes de Mladic s'emparent d'une importante position au sud de la zone de sécurité. Karemans demande à nouveau l'intervention de l'aviation de l'OTAN. Second refus, alors même que les positions des casques bleus sont directement visées par les assaillants serbes.
Est-ce que les casques bleus ripostent alors
ils ne sont pas de taille à répondre à une force de plusieurs milliers d'hommes bien armés et disposant de blindés. En outre, et là aussi ça pose question, ils n'ont pas été ravitaillés en essence et en munitions depuis le mois de février.
Alors, deuxième question. Comment expliquer la passivité de l'état-major onusien?
Je pense qu'on n'a pas pris les mesures du danger qui pèse sur les réfugiés de Srebrenica.
Mais pourquoi? On sait que les troupes de Mladic, en 1993, ont déjà donné la preuve qu'ils n'hésitaient pas à recourir au nettoyage ethnique.
Vous avez parfaitement raison. Mais à Sarajevo, où se trouve cet état-major, on doit alors estimer que Mladic, même s'il arrive à prendre Srebrenica, sera bien embarrassé de se trouver devant une telle masse de réfugiés. Par conséquent, on estime qu'il n'ira pas jusqu'au bout.
Ça semble quand même très léger comme raisonnement, parce qu'encore une fois, on sait ce que les hommes de Mladic sont capables de faire.
Ouais, je sais, oui. Mais j'essaie de me mettre à la place des officiers qui commandaient à Sarajevo. Ça ne veut pas dire que je les approuve. D'autre part, le commandement onusien avait sans doute peur d'être obligé de s'engager dans un combat frontal avec les Serbes.
Alors bon, mieux valait sacrifier les Bosniaques musulmans de Srebrenica?
C'est malheureusement possible. Mais permettez que je poursuive. La progression serbe est très rapide. Et il faut tout de suite observer que l'armée yougoslave, celle de Milosevic, apporte un soutien important aux unités de Mladic.
Oui, ce qui prouve à nouveau la connivence qui existe entre les Serbes de Bosnie et ceux de Belgrade.
Bien évidemment. C'est pourquoi le président yougoslave devra aussi répondre devant le TPI, le tribunal pénal international, de sa responsabilité dans les massacres de Srebrenica. 4 jours après le début de l'offensive serbe, la ville de Srebrenica est prise. Karemans, le colonel hollandais, a encore plusieurs fois demandé une intervention aérienne. Mais à chaque fois, le commandant de la Fort-Prenu, le général Janvier, a refusé.
Alors, avec quels arguments ces fois-ci?
La peur de mettre en danger les casques bleus hollandais, dont une vingtaine a déjà été capturée par les Serbes. De son côté, le japonais Akashi affirmera que la fumée des incendies masquait les cibles éventuelles.
Vous y croyez?
Pas trop. Autre argument. Les casques bleus auraient pu être victimes de ces frappes aériennes. Enfin, passons. Alors que la ville est déjà tombée, les Bosniaques se mettent pourtant à espérer. Des avions survolent la zone. La force aérienne de l'OTAN vient enfin à leur secours. Mais ils devront bien vite déchanter. Les bombardiers se contentent de frapper un véhicule de transport de troupes et 2 chars serbes.
Ouais, peu de choses donc.
Ouais, puis ils disparaissent. On ne les reverra plus dans le ciel de Srebrenica. Les massacres peuvent maintenant commencer en toute impunité. Car contrairement à ce qu'on pensait à Sarajevo, Mladic ne va nullement être embarrassé par cette masse de réfugiés. Car il va régler le problème à sa façon en essayant tout simplement d'en tuer le plus possible.
Pour être tout à fait honnête, il faut aussi donner la parole au général Janvier qui va être à plusieurs reprises mis en cause. Je me suis donc reporté à son audition devant la mission d'information parlementaire. Le général nie d'abord tout accord avec les Serbes sur l'emploi de la force aérienne. Ensuite, il revient sur ses déclarations devant le Conseil de sécurité de l'ONU dont nous a parlé Monsieur X, je cite Bernard Janvier. Le 24 mai 1995, j'interviens Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, je me suis exprimé très librement. J'ai, semble-t-il, choqué des membres de ce Conseil. J'ai posé la problématique d'une situation où les casques bleus étaient engagés dans une opération de maintien de la paix, où il n'y avait pas de paix à maintenir. J'ai indiqué que la FORPRONU se trouvait sans cesse dans des situations imposant le recours à la force sans avoir les moyens ni la couverture juridique adéquate. J'ai proposé d'appliquer des frappes aériennes à un niveau global, ce qui impliquait alors d'évacuer les forces onusiennes des enclaves en y laissant quelques observateurs. D'autre part, le général Janvier met en cause assez vivement le contingent hollandais et il explique. Si nous avions eu 400 Français à Srebrenica, cela aurait été totalement différent, car nous nous serions battus. Les Néerlandais ont reçu l'ordre de se battre. Quand on reçoit l'ordre de s'opposer, on se bat, c'est la mission. Nous nous serions battus et tout aurait changé. Nous aurions manœuvré, replié les dispositifs extérieurs, mis en œuvre nos armes, comme les mortiers 81. Chaque engin blindé est équipé d'une mitrailleuse 50. Nous nous serions battus, nous aurions réagi, et je suis persuadé que nous aurions fait reculer les Serbes. Certes, il manquait dans les forces des Nations Unies des moyens pour annihiler l'artillerie serbe. Les Néerlandais avaient aussi des missiles anti-chars puissants. Ils ne les ont pas utilisés. Ils avaient des lance-roquettes anti-chars. Ils ne les ont pas utilisés. Je pense qu'ils auraient dû se battre, quoi qu'en dise le rapport du secrétaire général des Nations Unies.
Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on examine dans le détail ce qui s'est réellement passé à Srebrenica.
Oui, je vous écoute.
Dans l'affolement qui suit l'entrée des troupes serbes dans la zone de sécurité, quelques milliers de musulmans préfèrent la fuite à travers les bois. On apprendra plus tard que beaucoup ont été massacrés. Et aujourd'hui encore, on compte des milliers de disparus.
Et les autres?
Ils se réfugient près du casernement du bataillon hollandais, et même à l'intérieur. C'est une usine désaffectée qui se trouve à quelques kilomètres au nord de Srebrenica. On y comptera plus de 30 000 personnes terrorisées. Auparavant, les Bosniaques musulmans, qui disposaient encore d'armes, ont fait officiellement leur reddition en présence du général Mladic et du colonel hollandais.
Ouais. Jusque-là, là, les musulmans qui n'ont pas fui peuvent penser que ça se passe à peu près bien.
Oui, Mladic a dit que c'était une grande fête pour le peuple serbe à qui il offrait Srebrenica. Et en même temps, il s'est efforcé de rassurer les Bosniaques. On a même vu ce jour-là Karimans, le colonel hollandais, trinquer avec le général serbe. Un geste qu'on lui reprochera plus tard, naturellement. Mais dès qu'arrive le soir, les choses se gâtent.
C'est-à-dire?
Les Serbes commencent à trier la population. D'un côté, les hommes, entre 14 et 70 ans. De l'autre, les femmes, les enfants et les vieillards.
Et comment justifie-t-il ce tri?
Ils affirment qu'ils veulent séparer les hommes en état de combattre des autres. Et dès cette première nuit, on assiste à des exécutions et aussi à des scènes de torture.
Alors, les casques bleus, là, ils laissent faire?
Oui, mais pouvaient-ils faire autrement? Je ne sais pas.
Et qu'advient-il alors de ces hommes qui ont été triés
hein? Ils partent en colonne en pleine nuit vers un hameau censé être un point de regroupement. Dans un premier temps, les Serbes les laissent passer. Mais dès qu'ils se sont un peu éloignés, les hommes de Mladic passent à l'action et commencent à les tuer systématiquement, un véritable carnage.
Et les femmes, les enfants et vieillards eux?
Dès le lendemain, filmés par la télévision serbe, ils montent dans des bus et des camions, non sans que Mladic lui-même, toujours sous l'œil des caméras, leur ait offert chocolat et friandises. Mais dès que photographes et caméramans sont partis, les exactions commencent. Tous les passagers sont dépouillés de leurs biens et les femmes sont violées. Et encore une fois, les casques bleus hollandais sont témoins de certaines de ces horreurs.
Toujours sans intervenir?
Oui, c'est même plus loin, car certains d'entre eux donneront un coup de main aux Serbes pour rechercher et arrêter les hommes qui ont échappé au tri et se cachent encore à Srebrenica, dans le casernement onusien.
Ah, là, c'est plus de la passivité, mais de la collaboration.
Plus tard, pour leur défense, ils affirmeront qu'ils étaient persuadés que les Serbes allaient respecter les lois de la guerre. C'est ce que dira plus tard le colonel Karimans, afin de justifier le fait que ces hommes avaient aidé les Serbes à regrouper des hommes. Il aura même cet aveu terrible devant le TPI. Il ne m'est pas venu à l'esprit de demander à Mladic ce qui était arrivé aux réfugiés.
Ouais. Ces soldats avaient pourtant été témoins des premières exactions perpétrées par les hommes de Mladic.
Ils les ont même filmés ou photographiés. Mais ces documents accablants disparaîtront, mystérieusement.
Ouais, là encore, certainement pas par hasard. Combien de musulmans ont-ils été assassinés par les Serbes de Mladic là?
On estime qu'en 5 jours, près de 10 000 personnes ont été exterminées et ensuite hâtivement enterrées dans des fosses communes. Et puis il y a, je vous le rappelle, tous les gens qu'on ne retrouvera jamais.
C'est donc un massacre systématique.
Et planifié. Ouais. Il fallait que tous les non-serbes vident les lieux. D'ailleurs, quelques jours seulement après le début des massacres, des familles serbes viennent occuper les maisons des disparus. Ouais.
Est-ce que la nouvelle de ces massacres est rapidement connue à l'extérieur ?
Oui, oui, il y a d'abord des survivants qui ont réussi à fuir et parlent de ce qui s'est passé. Et puis il y a aussi les observations aériennes qui permettent de repérer les fosses communes et les charniers. Donc assez vite, on peut prendre la mesure de la gravité de l'événement.
Les Serbes n'ont rien fait pour dissimuler ces atrocités ?
Pas grand-chose, non. Et avouez que c'était difficile. Mais à mon avis, ça doit aussi faire partie de leur plan. Parce qu'ils entendent terroriser la population musulmane des autres zones de sécurité, et plus généralement de la Bosnie tout entière. Ouais.
Comment réagit la communauté internationale, rappelez-moi ?
Elle est d'abord incrédule, mais il lui faut bien peu à peu voir la vérité en face. L'un des premiers à réagir est le délégué de l'ONU pour les droits de l'homme en Yougoslavie, le Polonais Tadeusz Mazowiecki. Il démissionne immédiatement parce qu'il ne veut plus, dit-il, participer à un processus fictif de défense des droits de l'homme. Et il demande qu'une enquête soit ouverte sur l'attitude du bataillon hollandais.
Une autre conséquence ?
Aux États-Unis, la réaction est très vive. Et le Sénat, par exemple, vote la levée immédiate de l'embargo des armes à destination de la Bosnie-Herzégovine.
Ouais. Et chez nous ?
À Paris, on est enfin décidé à taper du poing sur la table. Ça va se traduire par l'envoi d'une délégation de 3 officiers supérieurs de l'OTAN, un Français, un Britannique et un Américain auprès du général Mladic. Cette fois, l'OTAN est ferme. Pas question de trinquer avec le bourreau de Srebrenica. Et c'est un véritable ultimatum que les 3 officiers délivrent à Mladic. Toute nouvelle provocation sera suivie d'une riposte militaire immédiate. L'OTAN n'acceptera pas que d'autres zones de sécurité soient attaquées.
Mais est-ce que le général serbe peut entendre un tel langage ? Après tout, ça fait des mois et des mois qu'il se joue de la forprenue.
C'est vrai qu'une fois de plus, il fanfaronne, menace même. Mais il finit par comprendre que le rapport de force est en train de changer. Et ça va se manifester assez rapidement sur le terrain. La force de réaction rapide, créée, je vous le rappelle, à l'initiative de la France, entre en jeu et desserre enfin l'étau dans lequel vivait Sarajevo depuis presque 3 ans. Mmh.
Mais est-ce que cette force a créé fin mai, hein, c'est ça ? Mmh. N'aurait pas pu intervenir à Srebrenica ?
Elle n'était pas encore opérationnelle. Et c'est à partir du mois d'août qu'elle se montre efficace. En même temps, les Américains lancent une série d'attaques aériennes qui vont durer une bonne quinzaine de jours et obligeront les Serbes à abandonner leur position au-dessus de Sarajevo. Mmh.
Alors, quel est l'objectif et pourquoi cette toute nouvelle fermeté ?
Incontestablement, la tragédie de Srebrenica a été le détonateur. Mais pas seulement. Fin août, le marché de Sarajevo est à nouveau frappé par un bombardement particulièrement meurtrier. Oui, cette fois, la coupe est pleine. En outre, Britanniques, Français et Américains veulent en finir avec cette guerre coûteuse en vie et aussi en argent. Jamais une opération de maintien de la paix n'a coûté aussi cher à la communauté internationale.
Donc, si je vous comprends bien, l'objectif c'est d'amener degré ou de force les Serbes à la table de négociation, c'est bien ça, non ?
Oui, oui, et les Serbes vont y être d'autant plus enclins qu'ils doivent faire face à une offensive croate et bosniaque dans la région de la Krajina, qu'ils avaient conquise au tout début de la guerre. Pour être parfaitement impartial, il me faut souligner que cette conquête donne lieu à de nombreuses exactions sur les Serbes qui fuient par milliers vers la mère patrie.
Mais vengeance ?
Naturellement. Après Srebrenica, on pouvait craindre le pire. Et ce qui ne manque pas que celle, c'est que Milosevic lui-même, qui demandera aux Américains de peser de tout leur poids pour mettre fin à l'offensive des Croates et des Bosniaques.
Ce que fera Washington ?
Bien entendu. Je vous l'ai dit, les Occidentaux veulent en terminer. Et ça fait longtemps qu'ils ont leur plan.
Leur plan, c'est-à-dire
un partage de la Bosnie, seul susceptible, selon eux, de mettre fin au conflit. Et soyons lucides pour appliquer ce plan qui sera bientôt signé à Dayton. Srebrenica pesait très peu. D'abord, parce qu'il était prévu que cette enclave adossée à la frontière de la Serbie reviendrait forcément à la République serbe de Bosnie.
Vous voulez dire que Srebrenica était condamnée avant même les massacres et l'offensive de Mladic ?
J'en suis persuadé.
Monsieur X a parlé tout à l'heure de Tadeusz Mazowiecki, ancien premier ministre polonais nommé par l'ONU responsable des droits de l'homme pour l'ex-Yougoslavie. Il démissionne en effet avec éclat tout de suite après la chute de Srebrenica. Et il explique pourquoi, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, en voici un court extrait. « On ne peut parler avec crédibilité de défense des droits de l'homme quand on est confronté au manque de constance et de courage affiché par la communauté internationale et ses leaders. Ce sont la stabilité même de l'ordre international et le principe de la civilisation qui sont en jeu. » Dans la question bosniaque, des crimes ont été commis avec rapidité et brutalité, contrastant avec la lenteur et l'inefficacité de la réaction de la communauté internationale. Quant au procureur du tribunal pénal international, il présentera des preuves décrivant des scènes d'une violence inouïe. Je cite à nouveau. Des milliers d'hommes ont été exécutés et inhumés dans des fosses communes. Des centaines enterrés vivants.
Des hommes et des femmes mutilés et abattus, des enfants tués sous les yeux de leur mère, un grand-père obligé de manger le foie de son petit-fils. Des images véritablement surgies de l'enfer, écrites sur les pages les plus noires de l'histoire de l'humanité.
Vous aviez promis là de me parler des responsabilités des uns et des autres dans cette horrible affaire. Bah, c'est peut-être le moment. Hein.
Je vous l'accorde. Les premiers responsables, ce sont d'abord les bourreaux, Mladić et le président Karadžić.
Deux hommes qui ont été inculpés par le TPI, mais qui courent toujours,
oui,
il faut le rappeler.
Ils ont été longtemps protégés par Milosevic. Et le nouveau pouvoir en place à Belgrade n'a l'air guère pressé de les livrer. Mais il y sera sans doute obligé un jour ou l'autre, à moins que ces deux hommes ne trouvent opportunément la mort.
Ouais, on pourrait les faire taire.
Pourquoi pas? Ils savent beaucoup de choses sur les responsables indirects, ceux dont nous allons parler maintenant.
Alors, je vous écoute, là.
Nous avons déjà longuement parlé du contingent de casques bleus hollandais présent à Srebrenica. N'y revenons pas. Toutefois, je dois quand même à la vérité de dire qu'une commission d'historiens les a partiellement exonérés en 2000, je crois.
Bon, finissons-en donc avec les Hollandais. Alors, les autres responsabilités, là, enfin, les vraies, si j'ose dire.
Ben, il y a d'abord les Français. Rappelons-le encore une fois, c'est un général français, Philippe Morillon, qui avait promis aux Bosniaques musulmans qu'il ne serait jamais abandonné.
Un général qui opérait alors sous l'uniforme onusien.
C'est vrai. Ouais. Mais cela explique en partie la faillite de la Forpronu. Les militaires qui servaient sous cet uniforme n'agissaient jamais sans en référer à leur hiérarchie nationale.
Mais l'initiative de Morillon n'était-elle pas personnelle?
On le dit. Et c'est pourquoi, pardonnez-moi l'expression, il s'est fait ensuite sérieusement engueuler par Paris. Et l'incident a laissé des traces. Son successeur, le général Janvier, lui, se gardera bien d'agir de sa propre initiative.
Alors, c'est important ça, parce que, par conséquent, si je vous suis bien, quand il a refusé les frappes aériennes, c'était avec l'accord du ministère français de la Défense.
J'en suis certain.
Oui, mais pourquoi alors ?
Paris ne voulait pas envenimer les choses. Paris, mais aussi Washington et Londres. Je vous l'ai dit, l'objectif, c'était d'aboutir à un accord de partage de la Bosnie-Herzégovine. Partage qui interviendra officiellement avec les accords de Dayton et qui deviendra définitif en décembre 1995, après leur signature à Paris.
Oui, ce qui signifie aussi que la communauté internationale reconnaît par là même l'existence de la République serbe de Bosnie dirigée par Karadžić.
Oui, oui. C'est une sorte de prime accordée aux bourreaux. On n'a pas eu peur de considérer Milosevic et ses compères Karadžić et Mladić comme des partenaires légitimes dans le processus de paix. Alors même que les deux derniers étaient déjà inculpés de génocide et crimes de guerre contre l'humanité par le TPI de La Haye. Et on leur a accordé de régner sur une moitié du territoire bosniaque, l'autre moitié étant administrée par une fédération croato-musulmane. Mais revenons aux responsabilités.
Mais celle des Occidentaux me paraît écrasante.
Vous avez raison. Mais je vais aller encore plus loin. Assez cyniquement. Les Occidentaux ont fermé les yeux quand les opérations militaires servaient leur plan de partage de la Bosnie-Herzégovine.
Alors, si je vous comprends bien, là, Srebrenica, comme les autres enclaves, était une entrave à l'application de ce plan.
C'est certain. Et dans une certaine mesure, la purification ethnique a favorisé les objectifs des Occidentaux qui voulaient aboutir au dessein d'une république serbe de Bosnie homogène. De la même façon, ils ont laissé faire et même aidé indirectement Bosniaques et Croates dans leur tentative de reconquête de la Krajina. Pourquoi ? Parce qu'ainsi, la fédération croato-musulmane serait en possession de la moitié du territoire bosniaque, comme ils l'avaient prévu.
Tout ça me semble quand même particulièrement révoltant. Ce partage arrangeait donc beaucoup de monde.
Sans doute, parce qu'il permettait de mettre fin à ce conflit d'un autre âge au cœur de l'Europe. Mais est-ce que ça valait de passer par profit et perte une bonne dizaine de milliers de vies humaines? Ça, c'est une autre question. Toutefois, telle est la vérité. Je vous l'ai dit, Srebrenica, à terme, était condamnée à devenir entièrement serbe.
Il y a quand même une autre question. Est-ce que les massacres étaient prévisibles?
Je vous ai donné mon sentiment. On ne pouvait guère se faire d'illusions sur les méthodes qu'allait employer Mladić. Ensuite, il y a eu cette obsession récurrente des chefs de la Forpronu. Il ne fallait surtout pas mettre en danger les casques bleus. Leur protection était une priorité absolue. C'est pourquoi, afin de les sauver, on a sacrifié les réfugiés de la zone de sécurité de Srebrenica.
Ça, c'est quand même parfaitement paradoxal, parce que si ces casques bleus étaient présents sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, c'était d'abord pour préserver la paix et donc protéger les habitants.
Vous avez raison. L'histoire de la Forpronu est complètement absurde. Quant à l'initiative de la France, on a créé la force de réaction rapide, c'était d'abord pour protéger les casques bleus.
Oui, on va se répéter, mais protéger les protecteurs, en somme.
C'est juste. Ouais. Et je n'ai pas encore fini de passer en revue toutes les responsabilités. Et ce que je vais vous dire va sans doute vous étonner, mais les Bosniaques musulmans aussi sont coupables.
À qui ?
Le gouvernement du président Izetbegović.
Alors là, il faut m'expliquer. Hein.
Bien entendu, Izetbegovitch était un réaliste. Il avait compris depuis longtemps qu'on ne reviendrait jamais au temps ancien, là où les trois nationalités présentes en Bosnie, c'est-à-dire les musulmans, les croates et les serbes, vivaient en bonne intelligence. Il savait aussi que le nationalisme serbe ne renoncerait jamais à ses ambitions.
Ses ambitions de créer une grande Serbie. Hein.
Et dans ce but, de créer une république serbe en Bosnie. Alors, ce réaliste s'est dit que seul un plan de partage de son pays pourrait mettre fin à la guerre.
Au fond, il était sur la même ligne que les Occidentaux.
Je le pense, oui. Même s'il ne le disait pas et continuait à réclamer la libération totale de la Bosnie.
C'est très grave parce que ça signifie que le président Izetbegovic était lui aussi décidé à lâcher Srebrenica.
Oui, oui, il suffit de regarder une carte. Srebrenica et l'autre enclave de Zepa étaient tout près de la frontière serbe. Si les Serbes de Bosnie arrivaient au terme d'un accord de partage à constituer un territoire homogène, il était évident que ces deux zones tomberaient obligatoirement dans le giron des Serbes.
Ouais, alors Izetbegovic aurait donc lui aussi trahi les siens?
Je le pense.
Ouais. Est-ce que vous êtes en mesure de le prouver?
J'observe d'abord que pendant les deux années qui ont séparé la première prise de Srebrenica par Mladic et la deuxième en 1995, le gouvernement de Sarajevo n'a pas fait beaucoup d'efforts pour assurer la défense de la petite ville.
Oui, il avait quand même fort affaire à Sarajevo même. Hein,
et puis il pouvait considérer que la protection de Srebrenica incombait au casque bleu puisqu'il y avait été décrété une zone de sécurité. Il n'empêche. Izetbegovic savait parfaitement que l'enclave n'était défendue que par 350 casques bleus. Comme il savait aussi, connaissant les grandes lignes du plan de partage, qu'il avait lui-même secrètement approuvé, que les Occidentaux ne mettraient guère de zèle à défendre cette enclave destinée à devenir serbe 100%.
Mmh. Izetbegovic aurait donc, par réalisme, c'est bien ça, abandonné à leur sort ses compatriotes de Srebrenica.
Oui, et comme vous me demandiez une preuve, je vais vous en donner une. 3 mois avant la chute de Srebrenica, le gouvernement de Sarajevo a rappelé l'homme qui commandait la défense de la petite ville. Et il n'a pas quitté Srebrenica tout seul. 18 de ses officiers l'ont accompagné. Vous ne trouvez pas ça troublant, vous?
Je voudrais emprunter la conclusion de cet entretien à Nicolas Poincaré, qui a été longtemps un grand reporter de talent dans notre maison de Radio France. Voici ce qu'il écrit dans une postface au livre Srebrenica 1995, l'été d'une agonie des femmes témoignent, publié en 2000 par les éditions Arte. Srebrenica, c'est le dernier grand massacre de la guerre en Bosnie, mais c'est beaucoup plus que cela. L'épisode le plus tragique de cette guerre a définitivement scellé l'échec de l'Europe et des Nations Unies. Un fiasco total puisque l'ONU n'a pas seulement assisté sans réagir à l'extermination de près de 10 000 personnes, l'ONU porte également une responsabilité directe. La ville, en effet, avait été démilitarisée en 1993 et les Bosniaques avaient accepté de rendre leurs armes en échange de la protection de la Fortpronu. L'absence de réaction du commandement militaire, le refus des frappes aériennes demandées par le colonel hollandais, le silence des gouvernements français, anglais ou américains pendant le drame ne sont pas seulement une faute, mais bien une trahison des engagements pris. Le 15 juillet 1995 restera sans doute dans l'histoire parce que, depuis cette date, plus personne n'a pu défendre l'idée des casques bleus. C'est la fin des soldats de la paix, la fin d'une époque où les Nations Unies assuraient un rôle de gendarme mondial. Après Srebrenica, aucun grand pays n'a plus accepté de placer ses contingents sous commandement onusien. C'est d'ailleurs avec une satisfaction non feinte que les militaires français ou anglais sont passés sous la bannière de l'OTAN. Moins de 6 mois après ce massacre, les véhicules blancs ont prestement été repeints en kaki, les casques bleus couverts d'une toile couleur camouflage ou rangés au rayon des souvenirs historiques.